nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, ce tout premier sermon du premier jour de l'année civile, nous voudrions le consacrer à Saint Thomas d'Aquin, dont nous fêtons cette année le 7e centenaire de sa canonisation, qui a eu lieu le 18 juillet 1323 par le pape Jean XXII. Nous allons donc dire un mot sur la maison natale de Saint Thomas, puis sur sa première enfance, de laquelle nous allons tirer, pour cette nouvelle année, quelques conclusions pratiques. D'abord, la maison d'Aquin. C'était plus qu'une maison, un vrai château fort appelé Rocca Secca, ce qui signifie roche rude, car il était placé sur une roche abrupte, dominant à pic la petite ville d'Aquino. Véritable nid d'aigle en face de la célèbre abbaye du Mont Cassin, fondée par Saint Benoît lui-même vers 529. La famille d'Aquin appartenait à la plus illustre noblesse d'Italie. Le père de Thomas, Landolphe, comte d'Aquin, était le petit-fils de l'empereur Frédéric Barberousse. La mère de notre saint, Théodora Caraccioli, descendait des princes normands conquérants de la Sicile. De plus, la famille d'Aquin était alliée aux maisons royales d'Aragon et de Castille. Elle aurait même eu des liens de parenté avec le roi de France. À la noblesse du sang, la famille d'Aquin joignait la noblesse de la foi et de la vertu. Landolphe, chevalier brave et loyal, était en même temps chrétien généreux. Théodora était une mère très pieuse. C'est sur ses genoux maternels que le cœur de ses enfants s'épanouissait au rayon de la vérité, puisque, chère maman, c'est de l'air de sa mère que son tout petit doit connaître Dieu, apprendre à balbutier avec amour les noms de Jésus et de Marie. C'est ce que Théodora et Landolphe d'Aquin ont fait pour tous les 8 enfants que le bon Dieu leur avait donnés. Voyons rapidement quelques fruits de cette éducation. De leurs 5 filles, mentionnons 2. L'une, Marietta, s'est fait bénédictine et est morte dans les fonctions d'abbesse après avoir vécu très saintement. L'autre, Théodora, comme sa maman, a choisi la vie dans le monde, mais elle y vivait plutôt comme une véritable religieuse. Quelques années après sa mort, son corps a été trouvé intact, exhalant un parfum céleste. Quant aux 2 fils aînés du comte et de la comtesse d'Aquin, ils ont suivi la profession des armes auprès de Frédéric II, leur parent, jusqu'au moment où celui-ci commença à persécuter l'Église. Alors, ils l'ont abandonné. Cet acte de courage leur attira la vengeance de Conrad, fils de l'empereur, qui a mis à feu et à sang la ville d'Aquin, a rasé le château de Rocca Secca pour, au final, bannir à perpétuité l'aîné d'Aquin et faire périr le second. C'est donc là, dans cette famille, une des premières d'Italie, que le bon Dieu a choisi son docteur angélique. La famille d'Aquin nous est maintenant connue. Voyons, pour ce premier jour de l'année 2023, la première enfance de Thomas. Notre saint est né probablement vers la fin de 1225 comme un 8e enfant de Landolphe et Théodora. Le pape Honorius III exerçait alors le pontificat suprême. Landolf le pria de vouloir bien être le parrain du nouveau-né. Le pape y consentit volontiers et se fit représenter par l'évêque d'Aquin. L'enfant reçoit le nom de Thomas, ce qui en hébreu signifie « abîme », une prophétie que cet enfant serait un jour un habit de science. Avec une telle destinée, le ciel était obligé de protéger son futur docteur universel. Une nuit d'été, l'orage se déchaîne au-dessus de Rocca Secca. La foudre tombe sur la tour du château, y fait des dégâts considérables et pénètre dans l'appartement des enfants. La mère épouvantée se précipite. La nourrice et la petite sœur de Thomas sont tuées sur le coup. Quant à Thomas, il repose sain et sauf entre les bras de sa nourrice. Quelque temps après, la comtesse se rend au bain et demande à la nouvelle nourrice de lui amener son petit Thomas. Après l'accident de foudre, il lui est devenu cher plus que jamais. Entre-temps, son petit trésor aperçoit un morceau de papier, le saisit et le tient fortement dans la petite main. Pour le baigner, la nourrice veut le lui ôter. En vain. L'enfant se serre toujours davantage et finit par éclater en sanglots. Rien à faire. La nourrice le rapporte à la comtesse qui, étonnée de cette ténacité, plus tenace encore, lui ouvre la main de vive force, lui retire le papier et y lit ces mots. Ave Maria. Thomas redouble ses cris pour demander son trésor. Trésor que sa maman s'empresse de lui rendre. Celui-ci le saisit, le porte à sa bouche et l'avale aussitôt. On peut voir dans cette histoire, étonnante et touchante à la fois, une figure de la dévotion filiale envers la Sainte Vierge que saint Thomas professera un jour bien autrement que par les cris, par les écrits, principalement dans la troisième partie de sa somme théologique et dans son opuscule qui traite de la salutation angélique, mais aussi par les paroles. Par exemple, tout un carême à Naples, il prêchera sur ces seules paroles. « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. » Passons maintenant à l'aspect pratique, une sorte de programme pour cette année Saint Thomas. Et il se trouve ce programme sur le petit papier que le petit Thomas serra dans sa main, qu'il a mis dans sa bouche. Deux mots seulement, « Ave Maria ». Dans son traité sur la salutation angélique, saint Thomas donne trois explications du nom de Marie. Il signifierait illuminatrice, étoile de la mer, souveraine. Trois possibilités. Marie est d'abord illuminatrice, parce qu'elle-même est d'abord illuminée, pleine de lumière. Sur la terre, éclairée de la foi la plus parfaite, jusqu'à devenir la mère des croyants. Au ciel, éclairée de la lumière de gloire, et plus que tous les saints, plus que tous les anges. Et à cause de cette lumière qui est en elle, elle accomplit à la perfection ses fonctions d'illuminatrice. Juste un exemple. Après notre Seigneur, c'était elle qui instruisait les évangélistes. Saint Luc en particulier était certainement son confident quant aux circonstances de la naissance et de l'enfance de Jésus. Marie signifie donc illuminatrice. Ce nom a aussi un autre sens, celui de l'étoile de la mer. Une étoile est belle à contempler dans le ciel. Suspendue dans l'espace, elle verse une douce lumière. En plus, elle est, au moins était autrefois, disons, elle est utile pour le navigateur qui, grâce à elle, retrouve sa route. Un point lumineux d'orientation parmi les flots agités. « Ô vous donc, disait Saint Bernard, ô vous qui comprenez que votre voyage en cette vie est une navigation au milieu des écueils et des tempêtes, plutôt qu'un voyage en terre ferme, ne détournez jamais vos regards de la lumière de cette étoile, si vous voulez ne pas être dévoré par la tempête. » Et à tous nos mauvais penchants, l'invocation du nom de Marie est, selon Saint Bernard, un remède toujours efficace. Si vous êtes ballotté, dit-il, par les flots de la jalousie, de la colère, de l'avarice, des voluptés charnelles, invoquez Marie. Dans les périls, toujours Saint Bernard, dans les angoisses, dans les doutes, pensez à Marie, invoquez Marie. Que son nom soit toujours sur vos lèvres, sa pensée dans votre cœur. Et pour mériter le secours de son intercession, ne vous éloignez jamais de ses exemples. Et nous aussi, chers fidèles, nous devons être une étoile brillante. Comment ? Par les exemples d'une bonne vie, par des œuvres de vertu et par des paroles qui respirent la sainteté. Marie nous illumine, elle nous guide, c'est ce qui signifie son nom. Marie veut dire aussi souveraine. Elle l'est parce que, d'après saint Thomas, elle est la mère du souverain Seigneur. D'où sa puissance, son borne, mise au service d'une bonté sans mesure. Et notre âme, cette année, devait être de plus en plus souveraine, comme le nom de Marie. Âme souveraine de ce que nous sentons, de ce que nous voulons, de ce que nous faisons. Elle sera souveraine si elle cherche en toutes choses la gloire de Dieu, son propre salut et l'édification du prochain. Et tout ce travail, parfois même le combat, doit se passer sous le regard de l'Immaculée, le nom de Marie dans le cœur et sur les lèvres. Personne ne peut être sauvé que par Marie. Elle est avocate des pécheurs, la protection des désespérés. Tout affligé peut recourir à sa maman du ciel. Tout faible peut s'attacher à elle en quelque péril qu'il se trouve. Demandons donc à saint Thomas d'avoir le nom de Marie souvent cette année dans la bouche, en l'invoquant avec amour et confiance, et dans la main aussi, c'est-à-dire dans tout ce que nous faisons, la main étant symbole des œuvres accomplies. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.